Pour donner la parole aux acteurs de l'Église de notre région, Radio Présence a besoin de vous.
Soutenez Radio Présence. Envoyez vos dons à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31300, Toulouse.
Présence. Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La miséricorde. Pour qui ne le saurait pas encore, depuis le 8 décembre dernier, le pape François a ouvert dans toute l'Église universelle un jubilé extraordinaire de la miséricorde. Un an de grâce pour que tout homme puisse faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, une réalité infinie s'il en est que seuls les artistes habitués qu'ils sont à toucher du doigt les choses cachées de ce monde peuvent peut-être nous aider à appréhender, à entrer un peu plus avant dans ce mystère divin. Alors, pour cette émission, cette cinquième émission spéciale à l'occasion du carême et du jubilé extraordinaire de la miséricorde, une émission donc sur le thème « La miséricorde dans les arts », je reçois du beau monde, que du beau monde ce matin. Honneur aux dames, Monique Fauché, productrice du magazine Parole d'auteur, donc sur cette antenne. Bonjour Monique.
Bonjour Emmanuel.
Jean-Marc Andrieux, vous êtes directeur de l'orchestre Les Passions, orchestre baroque de Montauban. Bonjour.
Bonjour.
Le père Jean-Michel Maldamé, vous êtes dominicain et théologien. Bonjour.
Bonjour.
Et Éric Dupri, vous êtes producteur du magazine Les Feux de la Rampe sur cette même antenne. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors, peut-être, on l'a fait déjà de nombreuses fois à cette antenne et dans cette émission Vivante Église. Je le disais en introduction, le pape François donc a ouvert cette année de la miséricorde le 8 décembre dernier dans toute l'Église en ouvrant des portes saintes à Rome. Après, qui ont été ouvertes dans tous les diocèses, on va dire, du monde. Année sainte qui va courir jusqu'au 20 novembre prochain. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot, Père Jean-Michel Maldamé, la miséricorde. Alors, on l'a dit et redit en latin et en hébreu la signification, mais il est toujours bon de le rappeler. Tout le monde n'écoute pas Vivante Église tous les jours.
Miséricorde, transcrit latin misericordia, qui vient du mot cœur et misère. Donc, la miséricorde, c'est le sentiment que l'on éprouve dans le cœur, dans ses tripes, pour dire, face à la misère d'autrui. Alors, ça veut dire trois choses. D'une part, on est ému. C'est une émotion, mais ensuite, dans la tradition chrétienne, il n'y a pas que l'émotion, il y a l'action. Donc il faut être le bon samaritain qui vient au secours du blessé sur la route. Et ce qui est le plus important pour la théologie chrétienne, c'est que l'attitude du Christ qui est faite de miséricorde révèle l'intime de Dieu et le nom de Père est lié à cette miséricorde d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de violence, mais un Dieu de pitié qui vient au secours pour les sauver des hommes dans la détresse.
Alors, cette introduction est en fait, on commence par la musique. Alors, avec vous, Jean-Marc Andrieux, donc vous nous avez sélectionné trois œuvres. La première que vous avez choisie donc, est de Jean-Sébastien Bach, donc génie de la musique, compositeur allemand donc, du XVIIe siècle. Et vous avez choisi le Magnificat. Alors, vous allez nous expliquer après pourquoi, ou peut-être vous pouvez nous dire en introduction
oui,
avant qu'on passe un extrait.
Le mot miséricorde pour un musicien quand il aime bien la musique baroque et Bach en particulier, le premier extrait musical qui me vient à l'esprit, c'est l'extrait du Magnificat de Bach, et misericordia, justement ce mot, et que Bach traite avec un rythme de berceuse, un rythme de consolation, un duo entre alto et ténor qui est d'une extrême douceur et qui donne un ton ineffable de bonté.
Alors on va commencer par écouter un extrait et puis après vous allez nous commenter plus avant. Alors je vais reprendre, on a des petits soucis techniques mais c'est ça le live, le direct. Peut-être ce qu'on peut se dire quand j'ai préparé l'émission, c'est qu'on se dit le Magnificat de prime abord. Peut-être faut-il resituer, Père Jean-Michel Maldamé, cette prière de la Vierge. Donc quand elle va à la rencontre, elle est enceinte donc de Jésus, enfin du Christ pour les chrétiens, et puis elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth et lui monte dans le cœur cette action de grâce. Alors pourquoi la miséricorde? En quoi ça dit la miséricorde de Dieu?
Le mot miséricorde est un mot extrêmement présent dans les psaumes et donc dans la Bible. Donc le cantique du Magnificat récapitule toute une tradition de la révélation. Le Dieu d'Israël n'est pas le Tout-Puissant, Il a la toute-puissance, mais une puissance qui est de bonté, et c'est la raison pour laquelle, quand il voit son peuple dans la souffrance, dans la misère, il vient à son secours, et c'est cette miséricorde du cœur, cette miséricorde active, qui est célébrée dans les psaumes, qui est annoncée par les prophètes, et qui est reconnue par Marie, et la naissance de Marie s'adresse à Élisabeth, cette femme déjà âgée, qui n'avait pas d'enfant, et qui, par miséricorde, par bonté de Dieu, va avoir un enfant sur le tard. Donc c'est cette miséricorde qui est illustrée par la situation de la rencontre de Marie et de sa cousine plus âgée, Élisabeth, qui désespérait d'avoir un enfant et qui se trouve enceinte de celui qui sera plus tard Jean-Baptiste.
Jean le Baptiste. Alors on écoute tout de suite cet extrait. Alors que l'artiste que vous êtes, qu'est-ce qu'il dirait ? Évidemment, on sent quelque chose. Il y a comme de la tendresse dans
une œuvre comme
ça, beaucoup de douceur.
La première impression qu'on donne, c'est une extrême, qu'on ressent, c'est une extrême douceur, tendresse, consolation. Je redis ce mot. D'un point de vue plus technique, au niveau des harmonies, ce qu'il faut entendre, c'est cette basse qui descend par demi-ton et qui a un rôle d'apaisement. La mélodie au-dessus est assez simple et se développe assez naturellement, mais ce qu'on entend, c'est tom pom 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 pom, cette basse là qui vous caresse un peu d'une certaine façon, qui vous console.
Est-ce que vous, à titre personnel, ça vous parle de la miséricorde de Dieu, et si oui, qu'est-ce que vous diriez?
Oui, tout à fait. Tout à fait, je trouve que la musique là illustre la notion de bonté et de réconfort. Surtout de réconfort, un peu comme une berceuse.
Éric Dupri ?
Oui, je pense qu'on peut parler de consolation aussi, c'est peut-être le terme qu'il faut...
Oui, de consolation, absolument.
Ce que je ressens en tout cas, oui, en l'écoutant.
Mm-hmm. Père Jean-Michel Maldamé, on peut peut-être préciser quelque chose, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu se révèle peut-être par excellence aussi aux petits, aux humbles, c'est le sens du Magnificat. Est-ce que c'est aussi une condition sine qua non pour recevoir la miséricorde de Dieu ?
C'est la parabole du bon samaritain. On oppose à Jésus un argument, le légiste s'entend dire qu'il faut aimer son prochain, il pose la question, qui est mon prochain? C'est une manière d'éviter la difficulté ou de se justifier, et la parabole consiste à dire mais qui s'est fait le prochain de l'autre? Elle se termine par une question, et donc le prochain de l'autre, ça n'a pas été la victime, ça a été celui qui est venu à son secours. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de renversement de l'attitude. On imagine que la miséricorde serait d'être gentil pour celui qui est malade. Oui. Là, c'est l'inverse. Oui. C'est d'être celui qui s'étant laissé toucher par la misère de l'autre, lui-même devient actif. Et c'est la raison pour laquelle la lecture, je dirais... traditionnel chez les pères de l'Église et dans la liturgie, et qui est illustré un peu partout, consiste à identifier le bon samaritain avec le Christ. Le bon samaritain, c'est une interprétation allégorique de la parabole, c'est le Christ qui a pitié de l'humanité qui est laissée à mal par la puissance du mal et qui vient à son secours et qui l'amène à l'hôtellerie, c'est-à-dire à bon port, au port du salut.
Mais je vous repose ma question pour le Magnificat. Est-ce qu'il n'y a pas la condition d'humilité pour reconnaître cette miséricorde ?
Ben, nécessairement, la condition de miséricorde fait qu'on ne regarde pas les gens de haut. On ne toise pas les gens de haut, donc on se met dans le partage de connaissances, de même que Dieu, pour sauver l'humanité, s'est fait homme, l'homme de douleur. Et c'est quand le Christ est cet ecce homo, voici l'homme, comme dit Pilate, que se révèle la miséricorde de Dieu, non pas le Jupiter tonnant qui va faire effondrer le monde comme dans les visions d'Apocalypse, mais au contraire, celui qui, ayant pris sur lui la misère du monde, peut la présenter à Dieu et, en quelque sorte, prendre la tête de l'humanité nouvelle. Donc c'est cette position-là qui est la position de la miséricorde.
Alors, Jean-Marc Andrieux, deuxième extrait, vous avez choisi Nicolas Porpora. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas, donc du coup, j'ai révisé. Donc, voilà, compositeur italien, donc né au XVIIe siècle et qui a vécu donc au XVIIIe. Est-ce que vous pouvez nous le présenter peut-être brièvement avant qu'on écoute cet extrait ?
Oui, en fait, c'est un disque qu'on a enregistré de motets inédits de Porpora qu'il a composé pour les jeunes filles des hospédales et à Venise, les jeunes filles...
Des hospices,
je trouve plus le mot, bon, désolé.
Des orphelines
qui faisaient de la musique toute la journée et qui faisaient l'admiration de tous les voyageurs, dont Stendhal par exemple, qui ont découvert ces jeunes prodiges musicales. Et donc Porpora a composé des motets pour quatre voix de filles et orchestre.
Alors juste, donc, Nicolas Porpora, vous pouvez nous le présenter brièvement?
Oui, Porpora, c'est, si vous voulez, un peu le départ du bel canto en Italie, le premier grand professeur de chant qui a vraiment mis au point la technique de chant du bel canto et qui est l'auteur de très nombreux opéras. D'ailleurs, dans ses œuvres religieuses, on retrouve l'influence de l'opéra, on va l'entendre dans l'extrait que je vous ai amené, parce que j'ai choisi de vous faire entendre en fait trois compositeurs vraiment différents, de trois pays différents. On vient d'entendre Bach en Allemagne, Porpora en Italie, et on entendra un compositeur français. Et donc on voit là qu'il n'y a pas une frontière qu'on pourrait imaginer entre la musique profane et sacrée.
Alors on écoute tout de suite un extrait. Voilà, alors vous teniez à ce qu'on coupe particulièrement à cet endroit, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, je voulais qu'on attende ce moment-là. Ou... Oui, effectivement, parce que le traitement là est un peu décalé, entre guillemets. Vous voyez, on parlait de le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat, mais Porpora va attendre la deuxième partie du verset. Et ipse redimet Israël, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes pour illustrer vraiment cette notion-là de consolation, de miséricorde encore, il faut redire le mot. Donc je trouve là il y a un petit décalage dans le traitement musical des idées du texte.
Alors c'est une miséricorde beaucoup plus riante de prime abord. Je ne sais pas si ça tient qu'au fait qu'on soit en Italie, mais c'est
une miséricorde résolument optimiste même. Très très optimiste.
Voilà, alors que le psaume c'est le
De Profundis, c'est le psaume 130.
Voilà, n'est pas 129. On va dire ne commence pas de manière résolument optimiste, mon père, non, c'est
il ne commence pas, mais il termine. Dans la tradition juive, on ne termine jamais un psaume par le néant. Hein, il y a toujours, c'est la raison pour laquelle, dans la tradition chrétienne, après le psaume, on dit gloire à Dieu.
Et la doxologie.
Et la doxologie. C'est-à-dire que même si on dit le malheur, on ne s'arrête pas dans le malheur. Le malheur, il est là comme ce à partir de quoi on implore, mais si on implore, c'est que l'on espère.
Alors qu'est-ce que ça dit de la miséricorde dans ces cas-là aussi?
Ça veut dire que la miséricorde n'est pas la désespérance. Hein. La miséricorde est une réponse à la désespérance. La désespérance, c'est de penser qu'il n'y a plus rien à faire, sinon à se jeter par fascination dans le mal plus grand, ou dans un désespoir plus grand, dans la mort, à la limite, ou dans des souffrances plus grandes. La miséricorde dit justement que quelle que soit la dégradation, le malheur, ce qui vous écrase, il y a toujours une raison d'espérer, un rayon de lumière qui vient vous éclairer.
Et c'est fort de cette espérance aussi qu'on peut faire face à sa misère aussi, justement.
C'est force de cette espérance que l'on peut accueillir la force que Dieu nous donne en théologie chrétienne.
Monique Fauché.
Oui, alors je vais peut-être choquer Jean-Marc, parce que moi j'ai en tête un film qui s'appelle Good Morning Vietnam, et il y a, on voit des scènes de guerre. C'est au Vietnam, et on entend le interprété par Louis Armstrong, What a Wonderful World,
oui.
Quel monde merveilleux. Et c'est ça, il y a la guerre, les hommes, et il y a aussi ce monde merveilleux. Et là, moi, je trouve qu'on sent la miséricorde du Christ.
Tout à fait, non, ça me choque
pas. Vous êtes choqué, Jean-Marc André?
Non, pas du tout.
Ah, tant
non,
mieux.
Non, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et puis, je trouve toujours intéressant le décalage, enfin, décalage ou la distorsion qu'il peut y avoir entre l'image et le son aussi. Et artistiquement,
oui,
c'est des procédés qui sont utilisés très souvent intelligemment.
Alors, on avance parce qu'il y a encore, il y a encore beaucoup d'œuvres à aborder. Le troisième compositeur que vous avez choisi, donc, c'est Jean Gilles. Si je ne me trompe pas, donc, cette fois, c'est un compositeur français, voire même c'est un compositeur
toulousain,
du pays.
Toulousain.
Voilà. Dont vous êtes, semble-t-il, un des grands spécialistes, j'ai cru comprendre. Alors, dites-nous un mot de ce compositeur et puis de l'extrait que vous avez choisi.
J'ai beaucoup travaillé sur ce compositeur. Il est originaire de Tarascon, en Provence. Il a fait des études à Aix-en-Provence, avec un grand maître qui était Poitevin. Je vais aller très vite, hein, n'ayez pas peur. De toute façon, je ne peux pas parler trop longtemps de Gilles, il est mort jeune. Il a été très rapidement nommé maître de chapelle à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse en 1696, où il a remplacé Campras, qui venait de partir à Notre-Dame de Paris. Gilles, donc, arrive au moment de composer un Te Deum pour la paix de Ryswick en 1696, qui a été ordonné par Louis XIV. Et donc la légende dit qu'il a composé en une nuit, ce dont je doute fort. En tout cas, il a quand même composé assez rapidement. Et puis Gilles est connu pour être l'auteur d'un Requiem qui a été vraiment une œuvre emblématique du baroque français, puisqu'il a été joué après pendant tout le XVIIIe siècle pour les obsèques de Louis XV, les obsèques de Rameau, les obsèques de Stanislas de Pologne. Bref, ça a été une œuvre vraiment très 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 connue, très emblématique. Et finalement, sa légende a beaucoup alimenté ce succès de ce Requiem, puisqu'il paraît que ce seraient deux fils de conseillers au Parlement de Toulouse, de Capitoul, qui lui auraient commandé ce Requiem pour les obsèques de leur père, défunt. Et quand ils ont vu l'addition, ils ont trouvé que c'était un peu cher, ils ont changé d'avis, et Gilles, vexé, aurait dit... Puisque c'est cela, ce sera pour mes étrennes. Enfin,
Alors nous, on écoute un extrait, pas du Requiem, mais
du Te Deum.
Voilà.
Te Deum, dans le Te Deum, on retrouve aussi ce mot de miséricorde, hein, la notion de miséricorde. Alors c'est l'extrait, c'est, si je ne me trompe pas, voilà, Dignard et Dominé. Alors le texte dit « Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder du péché, prends pitié de nous, que ta miséricorde soit sur nous ainsi que nous l'espérons. »
Salvum, salvum,
Alors, Jean-Marc Andrieux.
Oui, donc là, on est un petit peu avant le mot miséricordie. L'extrait est assez long, donc il fallait attendre. Mais on voit le ton quand même de Gilles, qui est, on va dire, beaucoup plus sérieux que Porpora. Plus posé, c'est vrai que, en France, à ce moment-là, la musique française a la réputation d'être... oui, c'est ça, sérieuse. Ici, à ce moment-là, donc, « Sauve ton peuple, Seigneur, salvum populum », on trouve ce ton bien posé, avec un rythme bien régulier, des harmonies bien assises, et on trouve là toute l'expression, vraiment sérieuse de Jean-Gilles dans cette musique.
Voilà, alors déjà, maintenant la parole va être à vous, père Jean-Michel Maldamé, avec la peinture. Déjà, on peut voir, il y a comme trois visages de la miséricorde comme une caresse de Dieu, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est souvent l'expression qu'utilise le pape François, avec ce Magnificat de Bach, et après une miséricorde riante comme l'espérance de la miséricorde au-delà de nos misères, et puis là, quelque chose de la gravité avec cet auteur français, voilà. Alors, maintenant, la peinture, dites-nous, oui. Sans transition.
Sans transition,
vous avez choisi trois grandes œuvres. Alors, par laquelle commencez-vous par
trois Rembrandt. Grandes œuvres pour des raisons théologiques. C'est que la miséricorde est diffractée différemment selon les familles spirituelles. Donc, dans la tradition catholique, et en particulier dans la tradition du Concile de Trente, ce qui compte, c'est les œuvres, ce que l'on fait. Et c'est pourquoi nous avons un grand thème qui traverse toute la représentation, c'est que les œuvres de miséricorde, à partir de scénarios de jugement dernier, c'est de visiter les malades, c'est de nourrir qui a faim. Donc les œuvres de miséricorde, donc cette présentation des œuvres de miséricorde, est un grand classique de l'art chrétien qui a été représenté au XVIIe siècle par le Caravage.
Alors juste les œuvres de miséricorde, le pape François en parle dans sa bulle d'indiction, évidemment, oui. Il invite les chrétiens
invite
pas seulement
à agir. Voilà. Donc c'est, alors le Caravage, la nouveauté du Caravage, c'est...
Juste pour ceux qui ne connaissent pas, le Caravage.
Le Caravage, c'est Michelangelo Berisi dit le Caravage, son village natal. Donc on est à la fin du XVIe siècle. Donc c'est le Caravage, c'est le grand créateur du clair-obscur. Hein, le fond sombre et le personnage dans une lumière qui le met en relief. Alors, ceci est utilisé dans son tableau et ça va être aussi une influence sur son élève en matière de lumière et de ténèbres que sera Rembrandt. Hein. Donc, ce jeu de contraste de la noirceur et de la lumière qui va mettre en évidence des figures éminente. Alors, donc, le grand tableau du Caravage
Celui que vous avez choisi, qui n'est pas forcément le plus connu. Hein, parce que
c'est pas le plus connu.
Celui qu'on représente... a peut-être en tête, c'est l'appel de Christ,
parce qu'il est un des premiers qui l'a manifesté. Donc, ça s'appelle les sept œuvres de miséricorde. C'est un tableau qui fait 4 mètres sur 3, pratiquement, hein, qui va représenter les sept œuvres de miséricorde classiques, donc selon la lettre même de l'Évangile. Et donc ce tableau est fait pour inviter à faire le bien. Donc alors nous avons dans le même tableau une mise en scène où on voit quelqu'un de riche donner son manteau sur quelqu'un qui est nu. Alors il y a un tableau, une image très étrange, mais c'est une vieille légende romaine où un notable était en prison, il mourait de faim et sa fille qui est venue le voir lui a donné le sein parce qu'elle n'avait que ça à pouvoir lui donner. Donc cette image de la fille venant assurer la survie de son vieux père.
Comme dans Steinbeck.
C'est un tableau qui n'est pas chrétien, mais donc qui est ici représenté. Donc on a dans ce mélange de la tradition romaine. Hein, et puis nous avons celui qui accueille. Hein, on voit là quelqu'un qui invite, quelqu'un qui donne à boire, et on voit les gens qui font une sépulture des morts, c'est ce qu'on a rajouté comme cette œuvre de miséricorde. Donc nous avons là une grande œuvre qui vaut par son contraste et par le mouvement qui l'habite. Alors ça a marqué en quelque sorte un peu l'histoire de l'art et l'histoire de la théologie. La miséricorde, c'est de faire hein, les œuvres de miséricorde d'une manière résolue, et donc ce tableau invite à cette action.
Voilà, alors, c'est ce que vous disiez au début quand vous parliez de ce passage de l'évangile du bon samaritain. C'est le fait de passer à l'action qui fait faire l'expérience aussi de la miséricorde.
Qui fait l'expérience de la miséricorde. Alors le deuxième tableau que vous pensez évoquer, qui est très connu, du moins qui est mal connu, hélas, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, c'est le retour du fils prodigue. Alors on a beaucoup utilisé le retour du fils prodigue dans la catéchèse, alors tout le monde le connaît, mais on oublie que le thème de l'enfant prodigue est un thème majeur de l'œuvre même de Rembrandt. Et c'est pourquoi il me semble dire que ce tableau répond à un tableau de jeunesse de Rembrandt, enfin de jeunesse, de maturité.
Rembrandt, c'est pareil pour ceux qui connaissent
Rembrandt. Alors Rembrandt, nous sommes, c'est le grand 16e, le grand 17e siècle, la grande peinture hollandaise, héritier donc de cet art du clair-obscur, hein, les golfes d'ombre, hein, dit Baudelaire de Rembrandt. Donc c'est dans la lumière qui paraît dans les ténèbres, donc cette thématique. Alors le premier tableau dans lequel on voit l'enfant prodigue, c'est un autoportrait de Rembrandt. Rembrandt a beaucoup fait d'autoportraits, et c'est un tableau qui est évidemment un tableau qui a fait scandale. Pourquoi ? Parce que Rembrandt va se représenter lui-même comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est-à-dire, il va se représenter magnifiquement habillé, une grande épée au coteau, comme un noble. Hein. Or, il faut bien savoir que Rembrandt est un fils de meunier, c'est un homme d'origine modeste, cultivé, mais modeste, hein, de grande tradition protestante, très austère, qui a épousé par amour, et l'amour était réciproque, Saskia, qui était une fille d'une grande famille de commerçants et de bourgeois d'Amsterdam, et la famille de Saskia a très mal vu ce mariage, donc c'est la provocation. Parce que dans ce tableau de l'enfant prodigue, à ce moment-là, Rembrandt s'est lancé dans les affaires, en quelque sorte contaminé par le milieu de sa belle famille. De l'argent, là, il a investi, trafiqué les œuvres d'art, enfin c'était un truc pas possible. Et alors l'audace du tableau, hein, dans cet homme qui tient un grand verre de vin à la main, dans une attitude fort peu moral, tient une femme sur ses genoux, ça n'a rien d'érotique, hein, mais c'est très, puisque tout le monde est très habillé, et cette femme sur ses genoux, c'est sa propre femme, Saskia. Et il met ça dans son atelier, pas dans le tableau qu'il a vendu. Ce qui fait que sa belle famille ne pouvait pas ignorer cette provocation dans laquelle Rembrandt, en quelque sorte, est en dérision par rapport à lui-même. Il sait qu'il est dans la folie, il sait qu'il brûle ses vaisseaux, à tous les sens du mot, puisqu'il va investir dans du commerce et ce commerce va faire faillite parce que les vaisseaux seront détruits par la tempête. Et donc c'est en alors Rembrandt va, après sa faillite, après la mort de sa femme qui a été une très grande douleur pour lui, après ses fautes, parce qu'il va vivre un peu dans une vie un peu de bohème par moment, en faisant un enfant à la bonne, comme on dit, donc c'est pas sérieux, donc il va revenir dans une nouvelle conversion. Et c'est ce mouvement de conversion qui va représenter dans des dessins et des gravures qui représentent le retour de l'enfant prodigue, le moment de la conversion.
Vous pouvez peut-être le décrire, même s'il est très connu, ce tableau.
Alors, on voit
le fils prodigue de dos.
Dans les gravures, on assiste à la scène du face-à-face, on les voit. Tandis que dans le grand tableau à la fin de sa vie, qui va occuper les années 1660-1669, qui est inachevé, on aura la réponse au tableau de l'enfant prodigue. C'est l'enfant prodigue qui revient, donc on est dans le noir, hein, on ne voit plus comme l'enfant prodigue qui se retourne avec sa femme vers celui qui les regarde. On n'est plus comme dans les gravures où on voit la scène. On entre dans le mouvement et on est accueilli par le père comme l'enfant prodigue. Donc c'est cet élargissement de la miséricorde représenté par le père qui accueille son enfant qui se met à genoux. Alors on souligne souvent la misère de sa tenue. On oublie souvent de dire que cet enfant a à son côté une épée. C'est-à-dire que la même épée qu'on a vue dans le tableau et qui est plus belle, il reste dans la noblesse. Pauvre qu'il soit.
L'enfant est à genoux,
il appuie sa poitrine sa tête sur la poitrine du père, la queue les mains, donc c'est le geste de la tendresse du père. Alors, ce qu'il y a de l'énigme de ce tableau, c'est les personnages qui sont autour. Il y a quatre personnages. L'interprétation est controversée. Alors, j'ai la mienne. Hein. Je pense que dans la parabole, hein, quand l'enfant revient, l'enfant prodigue, le fils aîné n'est pas encore là. Hein. Il reviendra après, pendant la fête. Donc les deux hommes qui sont à côté, à notre droite, quand on regarde le tableau, c'est les pharisiens à qui Jésus s'adresse dans la parabole. Et il y a deux attitudes. Il y a l'attitude qui est debout, sur sa canne, très fier, observateur, sérieux, sévère, un peu disant qu'est-ce qu'il fait cet homme, enfin bref, ce vice perdu. Et l'autre est assis et il se bat la coulpe. Donc c'est l'effet de la parabole qui est une invitation au repentir. Et je pense que ces deux figures, pendant les témoins, alors derrière, il y a une figure qui apparaît. Je pense que c'est le fils aîné qui arrive et qui est tout surpris. Et au fond, comme dans les gravures, à la fenêtre de la maison ou sur le perron de la maison, une figure de femme qui doit être sans doute la mère de l'enfant prodigue.
Alors, avant qu'on fasse une pause musicale, peut-être les deux mains aussi, on en parle souvent.
Alors, on a beaucoup insisté sur les deux mains dans la catéchèse. Oui, alors, ça a été dit, alors je ne dirai pas
compte. Oui, mais ça vaut le coup de le dire, tout le monde ne l'a pas entendu.
Tout le monde, oui. Alors, d'une certaine manière, nous savons bien que nos mains ne sont pas la copie conforme l'une de l'autre, qu'il y a toujours une différence entre la main droite et la main gauche. Donc, c'est cet élément. Le plus important, me semble-t-il, ce n'est pas tellement la différence.
C'est
le fait que c'est le geste. Le geste de serrer l'enfant sur sa poitrine et le geste de la miséricorde. Et comme je le disais tout à l'heure, derrière l'attitude de Jésus se dévoile le visage de Dieu. Dans la parabole, quand il y a le Père, c'est le visage du Père qui accueille le Fils repentant. Rembrandt lui-même est accueilli de son Dieu. Et s'il y a ce mouvement, c'est que c'est une invitation à ce que tout chrétien, tout pécheur vienne demander et recevoir le pardon de Dieu.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin donc, cette émission, une des émissions spéciales de ce carême à l'occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, la cinquième sur la miséricorde dans les arts. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes avec Monique Fauché, productrice du magazine Parole d'auteur, donc sur cette même antenne. Éric Dupri, producteur, lui, du magazine Les Feux de la Rampe, à qui on va donner bientôt la parole. Jean-Marc Andrieux, directeur de l'orchestre Les Passions, orchestre baroque de Montauban, et le père Jean-Michel Maldamé, dominicain et théologien. Alors, on finit avec vous, mon père, peut-être le troisième tableau que vous aviez choisi. Un tableau de Van Gogh qui n'est pas très connu.
Qui est étonnant, même.
Le troisième tableau que j'ai choisi, qui me paraît bien illustrer la miséricorde, c'est un tableau de Van Gogh qui, à vrai dire, n'est qu'une copie d'un tableau de Delacroix, réinterprété dans le style de Van Gogh. Alors, comment situer cette peinture ? Van Gogh est malade, il est enfermé à l'hôpital, et il n'a pas la permission de sortir, parce que dans la nature, il est dangereux, et ensuite, il peut se perdre, il peut se détruire. Et quand il va un peu mieux, le médecin lui a permis d'avoir ses couleurs, ses pinceaux, parce que dans des crises de folie, il mangeait les couleurs. Enfin, bref, il y avait un véritable délire. Donc, on lui permet, donc il va à la fois faire ce qu'il voit par sa fenêtre, les grands cyprès, etc. Et surtout, il va copier ce que sont ses maîtres. Donc il va copier les tableaux de Millet, peintre social, et de Delacroix, le grand coloriste. Alors il faut se souvenir que Van Gogh est fils de pasteur, il a désiré dans sa jeunesse être pasteur, il a désiré consacrer sa vie aux plus pauvres, et c'est la raison pour laquelle il a abandonné un poste d'enseignant à Londres pour s'occuper de missions auprès des travailleurs du 19e prolétaire. Il n'a pas pu faire les études pour devenir un pasteur comme son père, avec des études compliquées. Il s'est engagé dans un mouvement évangélique, dans le Borinage, le pays minier, de la misère. Et bon, il n'a pas pu continuer. Mais donc ce sentiment tragique de la présence du Christ parmi les pauvres, c'est un des moteurs de son art, la source et au mouvement.
Le tableau, décrivez-le-nous peut-être.
Quand il est malade, il va reprendre ses sources et il va s'inspirer d'œuvres religieuses, en particulier de tableaux de Delacroix. Le tableau de Delacroix représente la parabole du bon samaritain, le moment où le samaritain charge sur sa monture l'homme blessé sur la route pour le mener à l'hôtellerie. Et donc c'est le contraste de ce geste de bonté entre une nature qui est éclatante et en même temps rude, c'est des rochers, le mépris des deux précédents qui s'en vont par le chemin, et c'est cette œuvre qui en quelque sorte est une identification comme un appel au secours. Rembrandt qui demande à ce que le Christ vienne à son secours pour le conduire au port du salut. Donc cette œuvre, avec des tons très, très, très colorés, comme le fait Rembrandt, s'inspirant de Delacroix, va être l'attestation qu'on en appelle au Christ du fond de sa misère, des profondeurs, je crie vers toi, il est dans la misère, dans la profondeur la plus tragique, d'une vie ratée, d'une vie en miettes, et il appelle par ça comme une prière au Christ pour qu'il le mène à bon port.
Vie ratée, en tout cas, il a l'impression d'une vie ratée.
Il est dans la vie ratée, il ne vend pas ses œuvres, il n'y a que son frère qui a confiance en lui et qui achète ses œuvres, qui lui paie ses œuvres, mais il sent très bien que Comme il le dit souvent, j'ai aspiré à la vraie vie et cette vraie vie n'est pas venue. Mais donc c'est le cri de la foi qui s'exprime comme un appel au secours dans une foi qui est la foi de son enfance, de sa jeunesse. Alors ça c'est une interprétation que je donne, personnelle, mais je ne suis pas seul à le dire. Je crois que le premier qui l'a dit c'est Stefan Zweig, en disant que l'œuvre de Rembrandt ne se comprend pas en dehors de cette grande motivation évangélique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Alors, on continue parce que le temps file. Littérature maintenant. Éric Dupri, vous êtes venu pour nous parler de L'annonce faite à Marie. Alors, je vais essayer de résumer cette pièce de théâtre rapidement, donc de Paul Claudel. Donc, c'est l'histoire de. On va écouter un extrait. C'est l'histoire de deux sœurs, on va dire, Violaine et Mara. Violaine qui est atteinte de la lèpre, qui se retire du monde, Mara qui est, on va dire jalouse d'elle de manière presque mortelle, elle se dispute plus ou moins un homme, et toujours est-il que à un moment, Mara se tourne vers sa sœur Violaine, qui est devenue une espèce de mystique en fait, lui demandant la guérison de son enfant mort.
Si mort, oui, une guérison d'un enfant mort, ça paraît comme ça un peu compliqué. Juste pour préciser les choses, en fait, Violaine effectivement avait été promise à un homme que convoitait aussi sa sœur Mara. Et Mara sait que sa sœur a contracté la lèpre en donnant un baiser à un homme atteint de la lèpre qui quittait la région. Donc le père des deux sœurs avait promis Violaine à un paysan du coin qui s'appelle Jacques Curie, dont Mara est également amoureuse. Et elle va dénoncer, si je peux dire, sa sœur à ce Jacques Curie en lui disant « elle a la lèpre, mais parce qu'elle a embrassé un homme qui en était lui-même atteint ». Voilà, donc on va peut-être écouter l'extrait pour voir un peu la relation entre les deux sœurs.
« Non, 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 tu ne me donneras point de change avec tes paroles de béguine. Non, je ne me laisserai point apaiser. Ce lait qui me cuit au sein, il crie vers Dieu comme le sang d'Abel. Est-ce que j'ai 50 enfants à m'arracher du corps? Est-ce que j'ai 50 âmes à m'arracher de la mienne? Est-ce que tu sais ce que c'est que de se déchirer en deux et de mettre dehors ce petit être qui crie? Et la sage-femme m'a dit que je n'enfanterai plus. Et quand j'aurai 100 enfants, ça ne serait pas ma petite aubaine. Accepte, soumets-toi. Violaine, tu le sais, j'ai la tête dure. Je suis celle qui ne se rend pas et qui n'accepte rien. Pauvre sœur. Violaine, c'est si doux, ces petits. Et ça fait si mal, cette cruelle petite bouche, quand elle vous mord dedans. Comme son petit visage est froid. Il ne sait rien encore.
Il n'était pas à la maison?
Il est à Reims pour vendre son blé. Elle est morte tout d'un coup, en 2 heures.
À qui ressemblait-elle?
À lui, Violaine. Elle n'est pas de moi seulement. Elle est de lui aussi. Ses yeux seulement sont les miens.
Pauvre Jacquin.
Ce n'est pas pour t'entendre dire pauvre Jacquin que je suis venue ici.
Que veux-tu donc de moi?
Violaine, veux-tu voir cela dit? Sais-tu ce que c'est qu'une âme qui se damne de sa propre volonté pour le temps éternel? Sais-tu ce qu'on a dans le cœur quand on blasphème pour de bon? J'ai un diable pendant que je courais qui me chantait une petite chanson. Veux-tu entendre ces choses qu'il m'a apprises?
Ne lui dis pas ces choses affreuses!
Alors rends-moi mon enfant que je t'ai donné!
Tu ne m'as donné qu'un cadavre!
Et toi, rends-le-moi vivant!
Mara, qu'oses tu dire?
Je n'accepte pas que mon enfant soit mort!
Est-ce qu'il est en mon pouvoir de ressusciter les morts?
Voilà, donc c'est une pièce bouleversante. Et pourquoi vous avez choisi particulièrement ce moment?
Mais parce que là, on sent bien la haine qu'a cette sœur pour son aîné, pour Violaine. Donc l'enfant vient de mourir, l'enfant qu'elle a eu avec Jacques. Violaine elle-même, atteinte de la lèpre, est aveugle, complètement défigurée. Donc elle va la retrouver, elle vit recluse depuis près de 7 ans. Elles ne se sont pas revues depuis. Et lui-même, cet enfant qui vient de mourir, et lui demande de le ramener à la vie. Ce qui va arriver, le miracle va arriver. Malgré ça, alors le miracle arrive, mais l'enfant, on entend un peu les paroles là pendant cet extrait, l'enfant va avoir les yeux bleus comme Violaine, qu'il n'avait pas au départ. Donc ce qui va redoubler en fait, non seulement elle n'est pas reconnaissante pour sa sœur, mais ça va redoubler la jalousie, la haine de Mara pour Violaine, et elle va aller jusqu'à essayer de la tuer. Donc la pièce se termine, Violaine meurt, elle est agonisante, son père la porte à Mara et à Jacques, et donc elle meurt en pardonnant tout de même à sa sœur et à tous ceux qui ont fait la vie qu'elle a eue. Malheureusement, elle aurait dû avoir une autre vie. Voilà, ça s'amène comme ça. Donc, je pense que ça illustre bien le thème de notre émission.
Peut-être avant que vous disiez quand cette pièce est jouée bientôt à Toulouse ou en région toulousaine, peut-être un commentaire, Père Jean-Michel Maldamé. La miséricorde, on en a vu beaucoup de visages. On a commenté dans la musique, on l'a vu dans ses tableaux, donc avec le fils prodigue, avec ce cri de Van Gogh au milieu de ce qu'il a l'impression être une vie ratée. Là, on touche peut-être quelque chose de la folie de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui guérit, qui parfois continue, ou qui a fait, en tout cas dans l'évangile on le voit, et qui parfois continue à faire des miracles en dépit de peut-être de toute
de tout, oui, je sais pas, de toute.
En écoutant cet extrait et en repensant à la pièce, je pense que ce que la miséricorde fait face, ou à quoi la miséricorde fait face, c'est pas simplement un état de misère, mais c'est aussi aux causes de la misère. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que dans ce que nous avons entendu, la cause de la misère, c'est la haine qui est inexpiable entre deux sœurs jalouses qui se partagent le même homme et qui ensuite se demandent l'impossible. Hein, et donc je pense que la miséricorde ici prend un nouveau visage. Elle est ce qui va traiter non seulement les effets du malheur, mais la cause du malheur. Et c'est, je pense, le pas de plus que nous fait faire Claudel dans notre entretien ce matin, c'est de dire il faut soigner la cause. Alors, cette cause, il y a une remarque, excusez-moi, je vais être érudit, hein, de saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la miséricorde, il dit que la miséricorde, c'est la misère, mais la misère, il nous faut aussi savoir la juger selon la justice, c'est-à-dire selon la réalité dont il s'agit. Donc ici, nous avons la rivalité, la jalousie, hein, et donc ne pas oublier que le mal est entré dans le monde par la jalousie du diable, la jalousie qui est la racine du mal. Hein,
c'est évoqué d'ailleurs dans l'extrait, on parle, le
donc
diable.
C'est la jalousie, donc la miséricorde fait face et fait remède à cette jalousie mortelle qui est même dans les familles unies.
Alors, je vois Monique Fauché qui se décompose. Alors, on va continuer peut-être. Vous
juste
irez
préciser que l'annonce faite à Marie est donnée à Audisud le mardi 15 mars à 20h30. Pour ceux qui auront envie de voir cette pièce, ben, in situ.
On le redira à la fin.
Avec bon, alors, Monique j'ai deux heures devant moi,
non,
c'est
non,
ça
non, vous avez moins que ça. Vous avez même pas 10 minutes.
Je ne sais plus.
Même pas 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le deuxième. Donc, vous vouliez nous parler de Florence Aubenas.
Je voulais parler de Florence Aubenas.
Alors peut-être on peut citer Florence Aubenas, qui est donc une journaliste, qui était journaliste à Libération, maintenant au Nouvel Obs.
Qui a été prise en otage, qui est une personne extraordinaire, lumineuse, bienveillante, ouverte aux autres, un sourire, et qui a décidé d'aller vivre parmi les femmes de ménage, qui après ça a écrit un livre intitulé Les quais du Ouistreham, et qui elle parle de cet ouvrage et elle en parle elle rencontre ces femmes.
Donc il faut juste il faut préciser, donc elle a vécu la vie, c'est-à-dire qu'elle s'est fait passer elle-même pour une femme.
Ah oui, tout à fait, personne ne l'a reconnue, c'est ça qui est extraordinaire, mais bon, alors évidemment, elle savait qu'après, elle reprenait son statut de journaliste, etc. Mais il n'empêche qu'elle en parle avec beaucoup de respect, beaucoup d'empathie. Et elle a été accueillie, parce qu'il y a un échange également là-dedans. Et je trouve que ce livre est assez extraordinaire. C'est humain, simplement humain, mais pour moi, il y a autre chose. À côté de ces femmes, il y a également, évidemment, la présence divine, il y a quelqu'un qui partage leurs souffrances, leurs malheurs, leurs difficultés. Et je trouvais ce livre vraiment assez extraordinaire.
Alors, de fait, c'est vrai que c'est une démarche journalistique, on va dire, rare. Ça fait penser un peu à Albert Londres, hein, qui parfois allait qui est allé jusqu'au bagne pour dénoncer la situation des bagnards. Pour vous, la miséricorde, c'est quoi, là, en l'occurrence? C'est que Florence Aubenas, en fait, va partager la vie de ces personnes
de l'intérieur. Elle veut témoigner et elle dit qu'elle a beaucoup reçu. Il y a ça aussi. Pour moi, il y a un échange. Et je trouve que, et en plus, elle a fait connaître. Et elle a appris aux autres, à moi par exemple, hein, elle a montré ce que éprouvaient ces femmes, ce qu'elles disaient de leur vécu, de leur avenir aussi incertain. Bon, c'est un échange.
C'est vrai que vu de loin, on a l'impression qu'elle va connaître la grande pauvreté française. Elle va la rencontrer, la grande pauvreté française, et on n'imagine pas qu'il puisse y avoir là-dedans, justement, parfois, on peut en avoir peur, tout à chacun, hein, qu'il y a de la tendresse,
moments,
de l'amitié, qu'il y a de la solidarité, etc.
Extraordinaire. Voilà.
Et de fait, aussi de beaucoup de souffrance. Alors, deuxième ouvrage dont vous vouliez nous parler, Graham Greene, La puissance et la gloire.
Oui, alors, mais peut-être qu'on
va peut-être avoir le temps de parler du Petit Prince quand même. Hein.
On peut, mais le Graham Petit Prince, Greene. Non, mais attendez, je voudrais le lire, le Petit Prince, parce que c'est le deuxième livre vendu après la Bible, hein, au monde. Vous le savez, ça ?
Non, je ne le savais pas.
Et bien voilà, je vous l'apprends. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. C'est court, hein ?
Mais alors, dites-nous pourquoi vous aviez choisi le Petit Prince, alors, dans ces cas-là, et pourquoi cet extrait ?
Eh bien, parce que, justement, c'est tellement mystérieux, le pays des larmes, là aussi. Il y a ce partage, cette union, cette rencontre de l'autre dans son chagrin, dans sa peine. Voilà. Et encore une fois, pour moi, c'est l'échange, aussi.
Et c'est aussi peut-être une âme d'enfant. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose, Père Jean-Michel Maldamé. C'est vrai que le Petit Prince, de prime abord, on se dit, c'est le cœur d'enfant de tout à chacun qui parle. Alors c'est pareil, est-ce qu'on continue peut-être à avancer, mais est-ce que pour reconnaître la miséricorde de Dieu ou l'accueillir, il ne faut pas justement avoir un cœur d'enfant ou réveiller son cœur d'enfant ?
Oui, on peut...
Vous avez l'air d'en douter.
C'est très beau. Non, mais ce texte est très très beau. C'est ce pays des larmes. Je pense que c'est un grand mystère dans les larmes. Hein, d'ailleurs, au niveau zoologique, il n'y a que l'humanité qui pleure. Hein, devant la souffrance, les animaux souffrent, mais ils ne pleurent pas. Hein, alors que nous pouvons pleurer. C'est-à-dire que les larmes vont être une spécificité humaine de compassion, de présence. Et c'est sûr que l'enfant, quand il vient au monde, il n'a que ses larmes pour s'exprimer. Et c'est pourquoi le pays des larmes, c'est le pays de l'enfant se retrouver. Et l'enfant se retrouver, c'est le besoin le plus viscéral. Parce que les œuvres de miséricorde, j'étais nu. Hein, on est nu à la naissance, j'étais assoiffé, on a besoin de lait à la naissance, j'étais sans nourriture. C'est cet itinéraire, je dirais, universel qui est derrière cette figure des larmes, ce pays des larmes. Et souvent, la miséricorde de Dieu, elle est là-dedans. C'est pourquoi la figure de franciscaine, de la crèche, de la figure très italienne de la dévotion populaire de la Madone est une figure qui nous donne la miséricorde, ce qui nous renvoie au Magnificat que nous avons entendu tout à l'heure.
Monique Fauché, pour finir, vous voulez nous parler alors de la puissance et la gloire de Grimm.
J'allais vous parler également même d'auteurs japonais chrétiens, vous vous rendez compte ? Bon, alors pour finir, vous voulez quoi, Emmanuel ?
Alors, il nous reste quand même une grosse minute. Alors vous voulez finir peut-être à défaut de la puissance et la gloire de Grimm Green
alors on va parler de Marie Noël, le chant de la Divine Merci.
Alors juste,
un extrait.
Marie Noël, juste pouvez nous situer ?
C'est une poétesse qui est décédée maintenant, qui est une chrétienne convaincue et qui a écrit de très beaux poèmes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je ne sais pas.
C'est très bien. Bah, vous pouvez nous lire l'extrait.
Voilà.
Je vous promets, vous serez réinvité pour une autre émission parce que je vous ai fait le veto pour...
À tous ceux qui, très loin, sont captifs dans le silence, aux âmes enchaînées par la longueur des muettes années, en nul ne sait quels abîmes plaintifs. À ceux dont l'ombre a tant de murs sur elle qu'ils n'ont jamais pu donner de nouvelles de leur nuit noire aux gens qui sont dehors. Ceux pleins d'appels dont nulle voix ne sort, dont le secret cherche un mot qui l'emporte, ceux dont le cœur bat sans trouver de porte, à tout cela, je ne sais pas combien, je viens. Je suis petit oiseau, je viens, je suis moucheron, un rien frêle, une aile. Et j'ouvre et je donne mon aile pour alléger leur épaule et mon chant, pour délivrer mon âme à travers chant, je viens.
Merci Monique. Peut-être pour finir, Éric Dupri, vous pouvez nous rappeler.
Alors je rappelle donc l'annonce faite à Marie de Paul Claudel, c'est le mardi 15 mars à 20h30 à Audi-Sud, mise en scène d'Yves Bonnen avec dans les rôles principaux Jean-Claude Drouot et Judith Chemla qui est une magnifique violaine. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces œuvres magnifiques qui nous ont aidés à entrer ou à comprendre un peu plus avant la miséricorde de Dieu. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.
Présence.
Vous êtes maman d'un enfant malade ou handicapé. Offrez-vous une journée pour souffler, prendre soin de vous, échanger avec d'autres mamans. L'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, organise pour vous une journée des mamans à Pibrac, près de Toulouse, le jeudi 17 mars. Plus d'infos et inscriptions au 05 61 07 04 66 et sur och.fr.
Merci à toutes et à tous d'écouter Radio Présence en ce lundi matin. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 mars et il est 9h59.